De dimanche à aujourd'hui, les dirigeants des 7 plus grandes économies du monde se réunissaient au Canada et ont adopté une déclaration sur ce conflit entre Israël et l'Iran. On analyse tout cela avec Alberto Toscano, journaliste et spécialiste des affaires européennes, mais pas que, puisqu'il est aujourd'hui à la une dans le monde et il est au micro, à votre micro, ma chère Lucie Gilson.
Bonjour Alberto Toscano.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste des affaires européennes, grand habitué de notre antenne. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka aujourd'hui.
Merci à vous.
Et j'aimerais m'entretenir avec vous du G7 aujourd'hui qui se tient en ce moment depuis le début de la semaine au Canada et qui rassemble donc chaque année les 7 plus importantes économies mondiales, c'est-à-dire l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni ainsi que l'Union européenne. Alors cette année, les discussions sur la table étaient toutes trouvées hein, quelques jours à peine après le début des frappes israéliennes sur l'Iran. Donc tout d'abord, ma première question, qu'est-ce qui en ressort de ces deux premiers jours, Alberto Toscano ?
Israël a le droit de se défendre. L'Iran est la principale source d'instabilité et de terreur. C'est les mots de la déclaration commune à la fin de ce G7 qui a eu lieu au Canada. Le président des États-Unis, Donald Trump, a accepté de signer cette déclaration commune, tandis que jusqu'à la dernière minute, on s'interrogeait sur le fait qu'il aurait accepté ou non de se rallier au point de vue des autres pays. Et évidemment, le sujet en question et l'accord qui a été trouvé et qui est exprimé par les mots que je viens de vous lire, ce concept a vu le président des États-Unis d'accord avec les autres pays. Il y a eu un véritable consensus de la part des 7 principaux pays de l'économie planétaire. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder l'ensemble de cette déclaration qui exprime aussi le souhait que il n'y ait pas de victimes civiles et qui exprime aussi le souhait que par rapport à la situation au Gaza, il y ait des évolutions dans le sens de la paix, d'un accord rapide. Donc il y a une vision d'ensemble, mais le concept fondamental est la condamnation de la politique de l'Iran par rapport à son aspiration de se doter de l'arme nucléaire. Non, les 7 pays les plus industrialisés du monde n'acceptent pas que l'Iran puisse aujourd'hui ou demain ou après-demain se doter de l'arme nucléaire.
Est-ce que vous pensez, Alberto Toscano, que cette déclaration, elle peut influencer la situation sur le terrain dans le contexte actuel ou c'est finalement un peu un vœu pieux ?
Oui, elle peut l'influencer dans le sens qu'elle accentue, elle met en évidence l'isolement international de l'Iran. Aujourd'hui, le pays des ayatollahs est l'un des pays, peut-être le pays le plus isolé au monde. Sa politique extrémiste de menace à droite et à gauche, même vers des pays de l'arabe, de l'islamique, du monde entier, et bien sûr vis-à-vis des pays occidentaux, en particulier lieu vers les États-Unis, évidemment vers Israël, et toute cette stratégie de menace a amené l'Iran à être totalement isolé. Et aujourd'hui, on le voit bien. Il y a plusieurs pays qui disent Israël n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, mais il n'y a personne qui dit l'Iran a raison à aspirer, à travailler pour avoir la bombe atomique. Donc, cet isolement de l'Iran a été accentué par la déclaration du sommet des G7. Encore faut-il rajouter que sur d'autres sujets, ce G7 se termine avec des points d'interrogation, avec des points de désaccord plus ou moins cachés. Et d'ailleurs, le fait que le président des États-Unis, Donald Trump, a quitté le G7 quelques heures avant les autres leaders des autres pays les plus industrialisés du monde, montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché sur le terrain de l'entente occidentale.
Et justement, et si on parle de ce départ anticipé qui a fait couler beaucoup d'encre de Donald Trump, on a pensé que certains ont affirmé par la suite, dont la Maison Blanche a confirmé que il était rentré en catastrophe afin de s'occuper d'un accord avec l'Iran. Est-ce que c'est votre avis également?
Je ne sais pas quelle est la véritable raison pour laquelle le président des États-Unis a quitté le sommet planétaire. Et je sais que son attitude a mis en évidence le fait que les États-Unis mènent une politique différente par rapport aux autres et qu'ils n'ont pas une véritable stratégie de cohésion occidentale. Encore faut-il attendre le prochain sommet de l'OTAN, qui sera d'ici quelques jours. Mmh. Et là, on verra, sur le terrain fondamental de la défense et de la cohésion dans la défense, à quel point il existe aujourd'hui une fracture dans le monde occidental et si cette fracture peut être réduite et quelque part dépassée par une politique de cohésion indispensable vis-à-vis des défis internationaux. L'Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres situations critiques sur le plan mondial.
Une autre déclaration de Donald Trump à la suite de son départ anticipé de ce G7 a été, il a été assez énigmatique. Il a expliqué qu'il enverrait un émissaire américain en Iran afin de pousser l'Iran, on le comprend, enfin c'est pas ses mots exacts, mais pousser l'Iran, acculer même l'Iran à un accord.
Oui, et Donald Trump désormais nous a habitués à la logique de déclarations continues et souvent contradictoires entre elles. Et peut-être que d'ici un quart d'heure, on lira une déclaration différente ou un tweet différent de la part du président des États-Unis. C'est sa logique, c'est son attitude, c'est sa façon, quelque part, de gérer une communication à laquelle nous, on n'est pas habitués. Mais lui, il est bien habitué, il la maîtrise de façon assez efficace. On verra. On verra si se mettra dans la logique de dialoguer avec le pouvoir des ayatollahs ou si, et jusqu'à quel point il va soutenir Israël dans son effort actuel qui est politique et surtout militaire.
Moi, j'aimerais aborder un autre aspect de ce G7 avec vous, Alberto Toscano. Beaucoup ont remarqué qu'en un an, cette photo de classe des dirigeants des 7 plus grandes économies du monde, elle a bien changé avec les seuls rescapés de 2024 qui étant Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Alors ça aussi, c'est symbolique.
Ah oui, c'est symbolique. Symbolique d'une génération. Mm-hmm. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron sont nés la même année, 1977. Et donc, c'est une génération qui va avoir bientôt 50 ans et qui aujourd'hui s'affirme de façon stable sur le plan de la politique internationale. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron sont l'expression de positions politiques bien différentes entre elles, mais ils ont quand même un trait commun. Leur pragmatisme. Macron arrive au pragmatisme d'une expérience politique de la gauche modérée. Il a été au gouvernement avec François Hollande. Et Giorgia Meloni arrive au pragmatisme de l'extrême droite. Donc, deux chemins totalement différents entre eux, mais ils arrivent parfois à s'entendre. Et il y a eu un sommet à Rome il y a quelques jours entre le président de la République française et la présidente du Conseil italien. Ils se sont vus, se sont parlé, ils se sont mis d'accord sur certains sujets, comme la nécessité de réarmer l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui a besoin d'être plus forte vis-à-vis des défis qui se présentent à ses portes. Donc, ce sujet, d'ailleurs, sera certainement traité, comme on disait tout à l'heure, dans l'imminent sommet de l'Alliance Atlantique. Pour le reste, ça a été le grand changement du Japon aux États-Unis, de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a même changé deux premiers ministres par rapport au dernier sommet du G7 à l'Allemagne. Donc, il y a eu un grand changement, et c'est la démonstration que nos démocraties sont en difficulté, qu'il y a une fragilité des gouvernements des différents pays démocratiques, parfois mis à mal par des élections, parfois avec des chefs de gouvernement comme au Canada qui ont dû démissionner, même si ensuite leur parti a gagné l'élection suivante, mais ce n'est plus la même personne. La chose qui domine ce scénario planétaire est évidemment le bouleversement politique aux États-Unis. Encore une fois, les changements sont le fruit de la démocratie. On ne peut pas demander la démocratie et ensuite protester si les peuples choisissent comme ils veulent. Mais les peuples sont désorientés, les démocraties sont fragiles, et le révélateur de cette fragilité est la fréquence des changements des majorités et des gouvernements.
Et ça marque en tout cas une nouvelle ère diplomatique et politique globale, apparemment. Merci beaucoup, Alberto Toscano, pour cet éclairage et à très bientôt.
Au revoir.